Pierre Bismuth, bonjour.
Bonjour Didier.
Vous êtes le directeur général de Meria Asset Management. On va parler avec vous de cette année 2018 et puis des perspectives. Si on revient sur l'année pour les investisseurs, ça n'a pas forcément été évident, notamment en fin d'année, hein, avec ces mois d'octobre et novembre assez compliqués. On retiendra quand même que l'investissement action, sur certaines poches en tout cas, a fonctionné.
Oui, absolument. On peut remarquer la tenue remarquable des actions américaines, même si le mois d'octobre a été meurtrier sur certains secteurs. Au global, les actions américaines pour un investisseur euro sont toujours positives. C'est moins vrai pour le cas de l'Europe.
Du côté effectivement des marchés obligataires, on avait aussi de la volatilité, ce qui est plutôt le cas habituellement pour les actions, mais on a vu aussi que ça n'a pas été facile.
Oui, alors c'était le plus gros point noir en fait de cette année 2018, c'est que les obligations sont généralement des actifs de diversification et là on n'a eu aucune diversification avec le retour du risque de crédit souverain, donc un risque qu'on avait connu en 2010-2011 avec la crise des dettes de la zone euro. Et là c'est vrai que le nouveau gouvernement italien nous a créé énormément de volatilité sur les marchés obligataires, notamment souverains, avec son bras de fer avec Bruxelles, bras de fer qui est toujours en cours.
Alors, du côté toujours de cette politique monétaire, quand on regarde la Réserve fédérale américaine et sa stratégie, hein, il y a un écart toujours en cette fin d'année, au moment où on parle ensemble, entre ce qu'a dit la Réserve fédérale américaine et ce que pensent les marchés. Pourquoi il y a cette différence?
Alors en fait, moi j'ai l'impression plutôt que les marchés sont peut-être totalement au diapason de la Réserve fédérale américaine. C'est-à-dire que quand elle dit bah, nous sommes sur un rythme de croissance qui justifie une normalisation, et attention, je parle bien de normalisation et pas de remontée des taux d'intérêt, les marchés anticipent finalement un taux neutre entre 3 et 3,5%. Là, on a vu que le mois d'octobre a été véritablement très volatile sur les marchés financiers, très volatile également sur les marchés émergents et encore plus sur la Chine. On a des partenaires commerciaux naturels avec les États-Unis qui peuvent remettre en cause la force de la croissance américaine. La Réserve fédérale américaine dit ben, finalement on n'est pas trop éloigné de la neutralité. Les marchés se mettent au diapason et effectivement anticipent une hausse de taux en décembre et plus vraiment en 2019.
Alors, il y a un sujet qui a été vécu comme inquiétant par les investisseurs en début d'année, c'était celui de l'inflation, puis il a complètement disparu. Est-ce que c'est un sujet qui peut revenir en 2019?
C'est-à-dire que quand vous voyez, il y a eu un sujet inflationniste aux États-Unis, c'est vrai que le dollar était plutôt bas au début de l'année, puis on a vu que la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis avait produit une large remontée du dollar par rapport à toutes les devises, mais euro, mais bien évidemment par rapport à toutes les devises émergentes. C'est vrai que c'est un paratonnerre contre l'inflation et c'est un peu pour ça que le risque a disparu, d'autant plus que la Réserve fédérale américaine n'a pas l'air d'être non plus en pause sur la normalisation des taux d'intérêt. Donc tout ça me semble assez sous contrôle et n'est plus véritablement un risque vu par le marché en tout cas.
Il y a quand même une différence entre ces différents marchés, différentes classes d'actifs. Si on regarde le pétrole, il n'est pas très haut aujourd'hui par rapport au pic effectivement de l'année. Les taux, alors, sans indiquer forcément une récession, indiquent quand même que ça va ralentir. Les marchés d'actions, eux, semblent tenir. On parlait des États-Unis en tout cas pour l'instant. Comment on s'y retrouve dans toutes ces classes d'actifs? Parce qu'il y a des messages un peu différents.
Alors c'est vrai que c'est aussi compliqué qu'on va dire que fin 2015, début 2016, on a eu une chute du pétrole, bon, pas de la même ampleur actuellement, et un aplatissement des courbes de taux sur des niveaux de taux bien plus bas. Là, c'est vrai que les marchés en général semblent jouer une récession, mais qu'on ne voit ni dans les prévisions de croissance du FMI, ni dans les prévisions de croissance des banquiers centraux, puisque la Fed était quand même très très rassurante en septembre-octobre sur la force de l'économie américaine et voyait pas véritablement la fin de cycle arriver. Même en Europe, on est au-dessus, proche, mais au-dessus du potentiel de croissance en 2018 et en 2019. Et c'est vrai qu'on a l'impression que les marchés actions et de matières premières jouent un peu à se faire peur. Sur les marchés de taux, néanmoins, on a quand même un aplatissement de courbe, mais sans inversion, ce qui est bon, pas finalement un signe de croissance assez prévisible à long terme. On n'est pas du tout dans le cadre d'une inversion. C'est également le cas en Europe où là, on est carrément pentu hein, sur la courbe des taux. Donc, les marchés actions jouent à se faire peur. C'est pas véritablement validé par le marché obligataire. Ça a fait effectivement trembler les marchés de crédit depuis novembre et pas en octobre. Et c'est véritablement ces points d'équilibre qu'il va falloir surveiller dans l'entrée de 2019.
Alors, justement, pour l'investisseur aujourd'hui, il se pose la question de est-ce que, par exemple, sur les marchés émergents, il va y avoir des opportunités sur ces. Quels sont, quel, quel, à quel endroit on va pouvoir se dire on peut quand même investir, prendre un peu de risque?
Alors, la clé va être l'horizon de temps. Car sur les marchés émergents, on a vu que par deux fois, les écarts de, donc les primes de risque sur le crédit se sont massivement écartées. Donc une fois en octobre et là encore une fois en début décembre. Et c'est vrai qu'on est à des taux de primes de risque qui sont véritablement des points d'entrée. Historiquement, on est quand même très élevé. Sur le haut rendement américain, c'est pareil. On a eu finalement un écartement des spreads. On a eu également une remontée des taux d'intérêt qui fait que finalement, on a des taux de rentabilité qui sont véritablement attractifs. Sur les actions, on a eu une telle décrue des cours que, on a également des points d'entrée. Mais ce qui est clé, de toute façon, dans la gestion, c'est toujours l'horizon de temps. On ne peut pas investir sur du court terme. Et c'est vrai que si on a un horizon de temps suffisant, là, on est quand même à des niveaux qui sont véritablement attractifs sur beaucoup de classes d'actifs.
Ça veut dire que du côté des perspectives, on peut continuer avec cette volatilité qu'on avait un peu oubliée, hein, il faut bien le reconnaître au cours des dernières années. La volatilité de 2018 pourrait perdurer, en 2019.
Bah, en fait, on a bien vu que la volatilité, c'était véritablement le fruit de désordres géopolitiques ou politiques. On a eu véritablement un risque qui nous a empoisonné toute l'année, donc le risque de guerre de guerre commerciale, hein, entre la Chine et les États-Unis. Et les marchés ont réagi à chaque nouvelle sur ce sujet. On a eu également le risque italien qui nous a vraiment fait trembler sur les banques, notamment italiennes, et puis au niveau de la cohésion de l'Europe. Les gros risques qu'on voit en 2019, c'est bien sûr les élections européennes qui peuvent générer encore une fois beaucoup de volatilité, mais économiquement, on a du mal à voir quelles sont les raisons pour lesquelles ça tremble ou ça a tremblé à ce point-là, puisqu'on a vu que finalement la guerre commerciale a un effet certes légèrement contre-productif sur la croissance, mais ce n'est pas non plus un risque majeur pour l'économie. Donc, la politique et la géopolitique créent énormément de volatilité sur les marchés et si tant est que ce bruit puisse finalement s'adoucir, on devrait avoir une année 2019 peut-être moins chahutée que 2018. Si en revanche on a autant de risques politiques et géopolitiques, alors là on peut retrouver des niveaux de volatilité très élevés.
Voilà, le politique au cœur effectivement des interrogations des investisseurs. Merci Pierre Bismuth d'avoir fait le point avec nous.
Merci Didier.